Alors bonjour, mais content de vous voir ce matin. On va laisser les autres sortir du lit plus tranquillement peut-être. On est un petit peu moins nombreux ce matin, mais j'aimerais commencer quand même en lisant un psaume ce matin. On va tourner ensemble dans le psaume 93 que je vais lire et puis après ça on va continuer ensemble sur notre survol de l'Ancien Testament. C'est aujourd'hui... J'ai un objectif un peu gourmand, si je peux dire, de couvrir la Genèse. Alors, on va voir comment ça va aller. Le psaume 93, ça dit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. » Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Alors, ce matin, on veut encore une fois se replonger, se rapprocher du Seigneur à travers sa parole et puis se rappeler que, comme on l'a vu la semaine dernière avec le début du récit de la création, que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est souverain, il est celui qui règne sur toute chose, c'est celui qui règne en majesté depuis toute éternité, éternellement, depuis les temps anciens, il existe depuis toute éternité. Même le psaume 92 dit « L'éternité, en éternité, tu es Dieu ». Et le verset 5 termine en disant, en démontrant combien ce Dieu-là qui est grand, qui est puissant, qui est souverain, tout ce qu'il dit est vrai. Ses témoignages sont véritables. Et ça me fait penser que cette semaine, j'étais l'Évangile de Jean, dans ma lecture personnelle, je lisais l'Évangile de Jean et combien de fois Jésus revient et dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Puis dans le récit avec Pilate, et puis là Pilate se pose la question « Mais qu'est-ce que c'est la vérité ?» Mais Jésus le dit même dans Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est lui qui est venu rendre témoignage de la vérité parce que Dieu est vrai, Dieu. Et tout ce que Dieu dit est vrai. C'est pour ça que Jésus est venu nous apporter la vérité parce qu'il est la vérité. Et puisqu'il est vrai, puisqu'il est juste, la sainteté convient à sa maison. Au milieu de son peuple, Dieu veut habiter au milieu d'un peuple saint qu'il a mis à part pour lui. Et on va voir ensemble ce matin comment le péché vient changer un peu cet aspect-là de la présence de Dieu et puis voir comment Dieu va venir commencer tranquillement à établir un plan de rédemption pour que les hommes puissent vivre dans la sainteté. Et puis pour la durée des temps, pour l'éternité, la sainteté est dans la maison de l'Éternel. Et c'est ce qu'on voit aussi dans l'ensemble des Écritures, c'est qu'à la fin, jusqu'à dans toute l'éternité, Dieu va faire de nous un peuple saint qui va lui rendre gloire. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin. On veut apprendre, grandir à l'image du Seigneur Jésus-Christ et apprendre de notre Dieu pour vivre dans la sainteté, vivre à sa gloire. Et on va se courber dans un mot de prière avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, on veut te réaliser que c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es Dieu. Et combien souvent dans nos vies qui sont souvent des courses folles à courir après toutes sortes de responsabilités, toutes sortes de tâches, toutes sortes de demandes autour de nous, Seigneur. Souvent, on oublie que tu es là, que tu es présent, que tu règnes, que tu es souverain sur toutes choses. Et Seigneur, ce matin, c'est ce qu'on veut se rappeler. En venant devant toi, au pied du trône de ta grâce, réaliser combien nous sommes faibles sans toi. Réaliser qu'on a besoin de toi, de besoin de ta force. Que tu demandes à ton peuple de vivre dans la sainteté, de vivre à ta gloire. Et combien par nature, Seigneur, pour nous c'est impossible, mais par la grâce qui est en Jésus-Christ, tu as rendu cela possible. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui habite en nous, qui fait son œuvre en nous, qui accomplit ton œuvre en nous pour nous rendre saints, pour nous rendre irréprochables devant toi. Et Seigneur, Il est clair dans les Écritures que ton esprit utilise ta parole pour nous transformer. Et c'est ce qu'on veut ce matin. S'arrêter, plonger nos regards dans ta parole, afin que tes paroles puissent habiter dans nos cœurs, que ton esprit puisse les appliquer à nos cœurs pour qu'on puisse vivre pour toi et t'obéir. Viens bénir notre temps ensemble ce matin. On est devant toi et on veut t'honorer, t'obéir, te bénir en toutes choses. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Oui. On est prêt. On va reprendre là où on était rendu. On avait commencé le récit de la Genèse, on a fait une introduction jusqu'à maintenant, on a fait une première introduction sur les Écritures, la Bible, les écrits de l'Ancien Testament, tout ça. On s'est donné s'est rappelé des outils pour interpréter l'Ancien Testament. Et là, on a commencé à plonger dans la Genèse, dans le Pentateuque, cette section des livres écrits par Moïse, les livres de la loi. Et on voit, comme on a vu dans toutes les Écritures, en fait, ce livre de la loi devient comme le fondement de la révélation de Dieu à travers lequel le peuple d'Israël va se référer pour connaître son Dieu. C'est quoi l'alliance qu'il a établie avec son peuple? C'est quoi les exigences de Dieu envers son peuple? Et tout ce livre-là, les cinq livres de Moïse, présentent la loi de Dieu. Mais la Genèse, on l'a vu, c'est le récit des origines. Non seulement les origines du peuple d'Israël, mais les origines de l'humanité aussi. Comment tout ça a commencé? Tout ce qu'on voit, tout ce qui, le temps, où, lorsqu'on cherche à comprendre comment le monde a commencé, c'est souvent une question qu'on appelle, qui fait partie d'une vision du monde. Je pense que tout être humain a sa vision ou sa conception du monde. Et c'est une des questions qui nous vient à l'esprit. Où est-ce que tout ça a commencé? Je sais que je suis né de mes parents, puis que mes parents sont nés de mes grands-parents, etc. Mais comment tout ça a commencé? Et Dieu nous le révèle dans sa parole. Comment tout ça a commencé? Ça n'a pas commencé avec une matière inanimée qui a un Big Bang, qui a évolué d'une façon constante sur des milliards d'années, puis qui fait en sorte que nous, on descend du singe, etc. Puis tous les changements chimiques et physiques qu'il y a pu avoir fait que par hasard, l'homme est apparu. Non, ce n'est pas ça. Dieu affirme qu'il est le créateur de toutes choses. Dieu affirme que c'est lui qui a fait ça, qui est derrière tout ça. C'est lui qui nous a, qui a créé toutes choses, il a tout créé toutes choses à partir de rien. Il a créé toutes choses à partir de sa parole. Il l'a dit, les choses sont arrivées. Et là, on était rendu dans la section du récit sur la création, à la création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Et je vais juste prendre le temps de lire le Genèse 1, les versets 26 et 27, qui pour moi sont c'est des versets tellement importants pour notre vision du monde, pour comprendre le monde comme Dieu l'a créé. En fait, c'est ça. Lorsqu'on parle d'une vision du monde, notre conception du monde, on peut réfléchir avec notre raison puis essayer d'en venir à une conception du monde. Mais en réalité, si Dieu est le créateur, c'est lui qui nous communique. Quelle devrait être notre vision du monde? Je peux philosopher, réfléchir, essayer avec ma sagesse de comprendre, concevoir les choses, mais Dieu nous le révèle. Puis si c'est lui le créateur, c'est lui qui me dit, voici la vision du monde que tu devrais avoir. Et ce matin, en regardant Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, et le reste aussi, on est en train de se poser ces questions-là. Quel genre de vision du monde je devrais avoir? Et répondre à les questions en termes des origines, et entre autres, l'origine des hommes et de l'humanité, en fait. Et donc, dans Genèse 1, versets 26 et 27, on a la parole de Dieu qui dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. il créa l'homme et la femme. Donc, si on cherche à comprendre d'où on vient, la réponse se trouve dans ces deux versets-là. Où est-ce qu'on vient? Dieu. On vient de Dieu. On est la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Le verset 27 nous dit « à son image ». Même le verset 26 le dit aussi. Dieu créa l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme, les deux. Il n'y a pas un supérieur à l'autre en termes de porteur de l'image de Dieu. L'homme et la femme, ensemble, les deux, portent l'image de Dieu. C'est une création qui est différente de ce qu'on a vu dans les autres choses qui ont été créées. Aucune autre créature, Dieu va dire, qui a été créée à l'image de Dieu. Donc, l'être humain est un être dans la nature complètement à part. On peut faire des comparaisons avec les animaux si on veut, mais l'homme n'est pas un animal, comme les restes des animaux. Ce n'est pas un animal, c'est un être qui a été créé à l'image de Dieu avec une dignité particulière que Dieu lui a donnée parce qu'il est porteur de l'image de Dieu. Et lorsqu'on comprend juste simplement cette idée-là, que l'homme est porteur de l'image de Dieu, puis qu'il y a une dignité dans l'homme qui est particulière, ça change notre façon de voir, notre façon de nous voir et de voir les gens avec qui je suis en relation. Je suis en relation avec des gens sur la terre qui ont toutes sortes de différences, de culture, la couleur de la peau, les langues sont différentes, on va voir les raisons pour ça. Il y a toutes sortes de différences. Mais un ne peut pas s'élever au-dessus de l'autre. Je ne peux pas m'élever au-dessus de mon épouse en termes d'égalité. Je suis égal à mon épouse. Je ne peux pas m'élever au-dessus d'un frère qui a une couleur de peau différente de la mienne. Je ne peux pas m'élever d'une certaine façon. Non, parce qu'ils sont tous porteurs de l'image de Dieu. Et à cause qu'on est porteur de l'image de Dieu, d'une certaine façon, l'être humain a... On doit respecter la vie que Dieu a mise en nous et ça a toutes sortes d'impacts. Je pourrais rentrer et aller profondément dans toute cette théologie-là, mais je veux juste m'arrêter ici parce qu'on fait un survol. Et puis, ça serait facile pour moi de m'attarder sur plusieurs choses. Mais plusieurs aspects de l'image de Dieu qu'on voit dans l'homme, une des choses, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être porteur de l'image de Dieu? Premièrement, on le voit dans les versets, c'est que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, verset 26, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Donc, un des aspects dans lequel l'homme est porteur de l'image de Dieu et ressemble à Dieu, c'est par le fait qu'il domine sur le reste de la création. Dieu a donné, on voit dans verset 28 et ensuite, que Dieu a donné un mandat à la création, un mandat à l'homme, qui est de dominer. Comme Dieu domine au-dessus de toute chose, Dieu a donné un mandat à l'homme de dominer sur la terre. Évidemment, l'homme ne le fait pas en étant égal à Dieu, il demeure une créature, et il le fait sous la gérance, ou je peux dire sous l'autorité de Dieu. Et donc, l'homme est responsable de dominer sur toute chose. On voit d'autres aspects, entre autres, dans tous les aspects humains, l'homme a une capacité intellectuelle, de raisonnement. On voit que Dieu crée l'homme avec une capacité de réfléchir, de penser. Il pouvait prendre soin du jardin dans lequel Dieu l'a placé. Et cette capacité que l'homme a de gérer, de réfléchir, de penser, de comprendre les choses, ça vient de Dieu. L'homme a aussi une capacité morale de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu donne un commandement dans Genèse 2, au verset 15, « Tu ne vas pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'homme était capable de discerner « ça c'est bien, ça c'est mal. » Une créature morale, une créature spirituelle, qui a la capacité de l'homme de reconnaître l'existence de Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. Dieu est esprit et l'homme est spirituel aussi et peut ainsi représenter Dieu en étant en relation avec lui. Et l'homme et la femme sont des êtres relationnels. Et comme Dieu désire entrer en relation avec sa création. Donc, il y a plusieurs éléments qui démontrent que l'homme était créé à l'image de Dieu et représente Dieu en étant sur la terre, en dominant sur toutes choses et dans les capacités que Dieu lui a données. Dieu va faire une alliance. Certains théologiens sont frileux à utiliser ce mot-là. Je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont vrais lorsqu'on parle d'une alliance. Dieu établit une alliance avec l'homme dans Genèse 2, versets 15 à 17. Même si on ne trouve pas le terme « alliance » dans ce passage-là, le passage montre quand même qu'il y a des éléments d'une alliance. On va voir plus loin que Dieu va faire une alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob, et avec le peuple d'Israël, avec David plus tard. Plusieurs alliances à travers l'histoire, et on voit que le mandat et puis les termes dans lesquels Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin, ils ont des éléments d'une alliance. Premièrement, ils servent à régir la relation entre Dieu et l'homme. L'homme est soumis à Dieu, créature est soumis au Créateur. Et puis, Dieu va dire à l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Puis Dieu va dire à l'homme, il va donner un ordre, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, un cadre, des limites à cette relation-là entre Dieu et l'homme. Et Dieu se sert de ça pour entretenir cette relation-là. Si l'homme obéit, il y a une bénédiction. Si l'homme désobéit, il y a une malédiction. On voit ça aussi dans les autres alliances qu'on voit, et puis une relation de soumission et d'obéissance. Donc, j'ai tendance à croire que même si les termes d'alliance ne sont pas nécessairement directement utilisés ici, je pense qu'on peut quand même penser d'une alliance entre Dieu et l'humanité dans son entier à ce moment-là. Si on ne le voit pas là, je suis pas mal à l'aise avec quelqu'un qui dit « ben moi, je ne suis pas sûr qu'on peut l'utiliser ». J'étais même à un certain moment un peu frileux à dire « peux-tu parler vraiment d'une alliance entre Dieu et l'humanité ?» Si on ne la voit pas là, on la voit certainement avec Noé plus tard. Et que Dieu renouvelle, en quelque sorte, cette alliance-là entre lui et le reste de l'humanité qui va suivre. Alors Dieu même si on ne voit pas une alliance, on voit quand même que Dieu vient placer des termes. Dieu règne. Dieu est celui qui a le pouvoir sur l'homme. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Et l'homme doit se soumettre à Dieu. Et l'homme pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais pas celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir. On voit dans le reste du chapitre 2 que Dieu va établir aussi le mariage. Comme je vous dis, les premiers chapitres de la Genèse sont importants pour nous aider à comprendre, d'avoir une vision du monde selon Dieu. Et qu'est-ce que c'est le mariage? C'est une institution divine. On les voit dans le verset 18 à 25 du chapitre 2. Et Dieu vient instituer ça. Verset 24 va dire, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et on voit même que Jésus va répéter plus tard dans Matthieu 19, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni, et en répétant ces paroles-là. Et donc, à travers le mariage, Dieu institue la relation entre l'homme et la femme, leur donne un mandat de se multiplier aussi, on le voit dans Genèse 1, de se multiplier, de remplir la terre, de former des familles, former des peuples qui, en réalité, sont destinés à glorifier Dieu, à glorifier à travers ce qu'il leur a donné comme mandat. Et puis, on le voit clairement que le mariage que Dieu a institué, il y a des termes clairs. C'est entre un homme et une femme. Et je crois que toutes sortes de mariages ou toutes sortes d'unions qui sont en dehors d'un engagement ferme entre un homme et une femme ne sont pas dans le plan de Dieu. Alors, ça peut inclure l'homosexualité, la polygamie, etc., aussi les péchés de débauche, de relations hors mariage, tout ce qui en inclut ça, c'est en dehors du plan de Dieu. Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que Dieu a établi le mariage pour être entre un homme et une femme qui s'unissent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Donc, il y a d'autres versets qui appuient ça, évidemment, dans les Écritures, mais c'est important de placer ça au départ. De dire, voici comment Dieu a créé les choses. Voici c'est quoi le plan de Dieu. Puis vous, après ça, on va voir que l'homme a décidé de se détourner de ce plan-là. Et on voit toutes sortes d'effets de ça dans l'histoire des Écritures, dans l'histoire d'Israël, et même autour de nous, dans notre culture aujourd'hui. Alors, ce qu'on désire, c'est de dire, Seigneur, c'est quoi ton plan? Et d'apprendre à vivre selon ce plan-là. Et je crois aussi que le mariage, lorsqu'on parlait d'interpréter les Écritures, l'Ancien Testament, de façon typologique, ça inclut aussi de voir le mariage, comme on le voit dans le Nouveau Testament, comme une image, un modèle de la relation entre Christ et son Église, entre l'époux et l'épouse. L'homme et la femme sont appelés à représenter l'amour de Christ envers son Église et l'Église, sa soumission envers Dieu. Donc, Dieu a établi ces choses-là. Ces choses-là sont bonnes. Dieu a établi ça, puis ces choses-là sont bonnes. Puis même si des fois ça va à l'encontre de la pensée de nos jours, Dieu veut qu'on puisse se soumettre à son plan parce que c'est comme ça que Dieu bénit. C'est comme ça qu'on peut être réellement heureux. Alors, on pourrait aller plus dans le détail dans tout ça. Je fais un survol. On va essayer d'avancer maintenant. Dans la chute et ses conséquences, évidemment, Genèse 3 arrive et c'est important. Encore une fois, ce passage-là est super important pour comprendre pourquoi ça va mal dans le monde aujourd'hui, pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi tout va semble aller tout croche. Pourquoi? Mais parce que le péché est entré dans le monde. Le serpent vient tenter Ève et puis... il y a tout un processus au niveau de la tentation. Elle va mettre le doute dans le cœur. Dieu a-tu vraiment dit de ne pas faire ça? Et puis, le mensonge qui vient, vous ne allez pas mourir. Si tu manges ça, tu ne vas pas mourir, mais tu vas devenir comme Dieu. Et tout un quelque chose qui s'installe. Et puis, dans le cœur de la femme et de l'homme aussi qui a péché, vouloir devenir comme Dieu et refuser l'autorité divine, refuser la souveraineté de Dieu. Et la base du péché, si on veut comprendre qu'est-ce que on peut parler d'un péché, comme manquer la cible et puis transgresser la loi de Dieu, mais si on prend le péché comme un concept de dire qu'est-ce que c'est le péché, bien le péché, c'est un refus de se soumettre à l'autorité divine, un refus de se soumettre à la pleine souveraineté de Dieu sur toute chose. Et c'est ce que le serpent, et puis identifié comme Satan dans Apocalypse 12, vient souffler, dire... Tu ne mourras pas. Tu vas devenir comme Dieu. Puis Dieu ne veut pas que tu deviennes comme lui. Mais tu sais, si tu veux vraiment être libre, si tu veux vraiment être heureuse, si tu veux vraiment être heureux, prends cet arbre-là, tu vas voir, ça va aller bien. Tu vas te libérer d'être soumis à Dieu, puis tu vas pouvoir faire comme tu veux. En réalité, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui arrive? L'homme et la femme prennent le fruit, en mangent. Et puis, ils vont plonger l'humanité dans le péché, dans la corruption qui s'ensuit, et puis la douleur, la malédiction que Dieu avait prédit dans Genèse 12 s'applique, et puis tout ce qui s'en vient après va faire que l'homme va mourir. Le péché entraîne la mort. Et puis cette mort-là, c'est une mort qui, on parle d'une mort qui est la conséquence du péché. Dieu l'avait clairement averti l'homme, on l'a lu. La conséquence de la désobéissance était certaine, c'était la mort. Tu as désobéi, tu meurs. Ça a un impact sur la mort physique, évidemment. Tout homme meurt un jour. On ne passe pas à côté de ça. Plus j'avance dans ma vie, plus je me dis, ah, finalement, ça va venir moi aussi un jour. Je vais passer à travers ça. C'est inévitable. Tout homme meurt. Tout homme meurt un jour, physiquement. Mais ça implique aussi la mort spirituelle, la chute. Le fait que l'homme est tombé dans le péché a entraîné la mort spirituelle qui a fait que l'homme, maintenant, n'a plus la capacité d'honorer Dieu et de glorifier Dieu comme il l'avait auparavant dans le jardin. L'homme n'a plus cette capacité-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis l'homme n'est plus en mesure, maintenant, de plaire à Dieu, même s'il ne veut même plus plaire à Dieu même. Donc, ce n'est même pas dans son désir naturel de vouloir plaire à Dieu, de vouloir glorifier Dieu. Madame Paradis, vous avez une question, oui. 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 Oui, absolument. Oui, 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 c'est ça. OK, Madame Paradis souligne le fait que la parole de Dieu dit qu'au retour de Christ... Certains vont monter au ciel. Et dans un sens, il va même dire à certains endroits que, dans le fond, on ne verra pas la mort, dans le fond. Ce que je veux dire par ici, c'est que dans le cours des choses, jusqu'à temps que Jésus revienne, c'est sûr que tout le monde va mourir physiquement. C'est là, vers là qu'on s'en va. Tout homme va mourir physiquement. Sauf au retour de Christ, il y en a qui vont être encore vivants, puis ils vont rester vivants à ce moment-là. Ils ne mourront pas physiquement. OK? Ça, c'est sûr. Mais depuis le début de la Genèse, dans le Jardin d'Éden, je ne connais pas quelqu'un qui a vécu 10 000 ans. Tout le monde est mort à un certain moment donné, physiquement, évidemment. Et puis, la mort physique est une des conséquences du péché. La mort spirituelle aussi, et puis finalement, la mort éternelle, qui est la séparation d'avec Dieu. On le voit dans le jardin, Dieu va sortir l'homme du jardin, ils vont être séparés de Dieu, et puis cette séparation-là demeure à cause du péché, et c'est une des conséquences du péché, une séparation, une mort spirituelle, mais une mort éternelle aussi, dans un châtiment qui est éternel. Oui, M. Gagnon. Oui, même Jésus est mort. Ça, c'est vrai. Absolument. C'est absolument. Oui, Jésus est mort et ressuscité. Et c'était pour nous. On va le voir aussi plus loin, les liens qu'on voit entre la Genèse et puis ce que Christ a accompli pour nous. Évidemment, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu promet quelque chose déjà dans Genèse 3, au verset 15, on voit ce qu'on appelle le proto-évangile, une promesse que Dieu fait à l'homme, malgré le péché, qu'un jour la grâce va venir. Il va dire au serpent, entre autres, à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il va avoir, la femme va blesser la va écraser la tête du serpent et Satan va lui blesser le talon. Bien, en fait, la postérité de la femme qui va écraser Satan, c'est Jésus-Christ qui est venu pour écraser, avoir la victoire sur le Satan, le péché, le monde. Et puis Jésus doit souffrir pour pouvoir avoir cette victoire-là. Alors, l'idée que le serpent blesse le talon, c'est-à-dire de la femme, c'est de sa postérité, c'est la souffrance que Christ a vécue. Et à travers la souffrance que Christ a vécue, la postérité de la femme écrase la tête du serpent. Et puis, on voit là déjà une annonce de la grâce de Dieu qui va venir. Ensuite de ça, on voit les conséquences du péché. Jusque dans le chapitre 11, les chapitres 3 à 11, on voit les conséquences du péché, entre autres. On voit Caïn et Abel, que Caïn va tuer son frère, voir la jalousie qui s'installe. Et puis, à travers Caïn et Abel, on voit les effets du péché, l'amertume, la colère, les mauvais sentiments les uns envers les autres dans les relations qui s'installent. Dieu arrive au point dans Genèse 6, où il n'est plus en mesure de supporter la méchanceté de l'homme qui est sur la terre. Et puis, on le voit, Genèse 6, les versets 5 et 7, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Tout ce que les hommes faisaient, tout ce que l'homme fait par nature maintenant à cause du péché, c'est le mal. Mais l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il est affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc, Dieu voit la méchanceté de l'homme. Dieu se repent. Je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les détails de toute cette explication-là, de comment Dieu peut se repentir, mais je pense que c'est une explication, on peut l'expliquer d'une manière que Dieu emploie des termes humains pour dire la méchanceté de l'homme est tellement grande que le cœur de Dieu est attristé de voir ça, et puis Dieu dit « Pourquoi j'ai fait l'homme? » C'est tellement de la méchanceté, c'est juste la méchanceté. Et l'homme, ça nous montre le cœur de Dieu à travers ça et son dégoût du péché. Et Dieu décide d'exterminer de toute la terre, toute vie humaine et animale. Mais un homme trouve grâce. Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. On le voit dans Genèse 6, 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et avant que le déluge universel arrive, Dieu va donner ses instructions à Noé pour préserver Noé et sa famille et puis un couple de tous les animaux de la terre. Et on voit ensuite de ça à la fin du déluge que Dieu va renouveler son alliance dans Genèse 9, les versets 8 à 17, si vous voulez aller réviser ça. Dieu renouvelle son alliance avec l'homme, il donne des instructions à Noé, il dit, et Dieu s'engage à ne plus jamais exterminer l'homme par un déluge, il nous donne de l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance-là. Et le désir de Dieu, encore une fois, et dans sa grâce, malgré le péché, d'entrer en relation avec l'homme. Dieu veut être en relation avec nous. Il veut notre bonheur. Et il va déjà commencer déjà à garder l'homme vivant, à ne pas l'exterminer complètement, mais à le garder pour être en relation avec lui. Et Dieu va établir des nouvelles règles dans les versets 1 à 7 du chapitre 9, entre autres au niveau du meurtre, des choses que je pense qui pouvaient déjà être là avant, mais que Dieu établit dans sa relation avec l'humanité. Dieu va rappeler que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'on ne doit pas verser le sang et qu'il y a des conséquences lorsqu'il y a le meurtre. Ensuite de ça, pour finir cette section-là, le récit de la tour de Babel qui nous montre encore le cœur de l'homme qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui veut s'élever au-dessus de Dieu, qui veut construire une tour et former des projets pour être, en quelque sorte, qui manifeste son cœur, être indépendant de Dieu. Et Dieu va venir confondre le langage. Et puis à Babel, c'est là que les langues se sont dispersées par toute la terre et puis on a différentes langues. Donc, chapitre 1 à 11, c'est vraiment le récit des origines de l'humanité. Et on arrive maintenant dans le chapitre 12 avec le début, si je peux dire, vraiment de l'histoire d'Israël à travers l'alliance que Dieu va établir avec Abraham. Dans Genèse 12, on va voir que Dieu va se choisir une famille, un peuple pour lequel il va démontrer sa grâce, il va établir, continuer de chercher, établir son royaume par une alliance qu'il va établir avec Abraham et sa descendance. Cette alliance va établir que non seulement Abraham va être béni, mais qu'à travers lui, toutes les nations de la terre vont être bénies à travers lui. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail maintenant. Dans Genèse 12, les versets 1 à 3, je vais lire le passage, c'est là qu'on voit vraiment comment Dieu vient pour établir cette alliance. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, Dieu décide de faire grâce à Abraham. Il vient vers lui. Ce n'est pas parce qu'Abraham avait quoi que ce soit de spécial que les autres hommes n'avaient pas. C'est simplement, je pense, dans le dessein du plan de Dieu. Il a choisi Abraham. Et il a choisi, à travers lui, de bénir toutes les nations. Il lui promet une postérité. Il mentionne plusieurs choses. Il va lui promettre un pays à travers cette alliance-là. Le pays que Dieu va donner à Abraham, évidemment, c'est la terre de la Palestine qu'il va donner à sa descendance. Ça va venir un peu plus tard, on va le voir dans le livre d'Exode. Ces promesses-là, la sortie d'Égypte, etc. Et puis dans le livre de Josué, la conquête de cette terre qui est promise-là. Mais tout le reste du récit, dans le fond, c'est comment l'alliance avec Abraham puis les promesses que Dieu lui font, comment vont s'accomplissent. Et puis, à partir de ce point-là, on voit que l'Éternel lui donne un pays. Le pays que Dieu donne à Abraham et à sa descendance plus tard, on va voir que c'est un pays où ce qu'il y a de la bénédiction. Il y a de l'abondance, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et on va voir que, encore une fois, ce pays-là est une image de quelque chose d'encore plus grand qui est à venir, qui est la présence de Dieu au milieu de son peuple et la cité céleste que Dieu réserve à ses enfants. Mais Dieu lui promet un pays, Dieu lui promet une descendance. De sa descendance naît évidemment Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et toutes les 12 tribus d'Israël. Mais de cela va venir aussi Jésus-Christ. C'est le point que Matthieu apporte au début de son évangile. Toute la descendance qui vient d'Abraham et puis finalement arrive à Jésus-Christ qui vient pour accomplir cette promesse-là de Genèse 12 et que cet accomplissement-là est plus grand que seulement la descendance dans la chair. C'est un accomplissement spirituel aussi qui s'accomplit. On voit dans Galates 3, on va peut-être le voir ce matin avec notre pasteur Yannick, que dans le fond, ceux qui sont les enfants d'Abraham, c'est qui? C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et donc, à travers la proclamation de l'Évangile, comment toutes les nations peuvent être bénies? C'est en s'approchant de Christ, qui est de la descendance d'Abraham et qui vient apporter le salut, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. C'est ça la bénédiction que Dieu avait promet à Abraham, déjà dans Genèse 12. Mais on ne le voit pas tout là. C'est lorsqu'on comprend de façon théologique et typologique et tout ça, avec l'aide du Nouveau Testament, qu'on voit ça. C'est waouh! Le plan de Dieu qui s'est accompli en Jésus-Christ a commencé là. C'est là que ça commence. Et puis on l'a vu, même ça commence même un peu avant, dans Genèse 3. Mais à travers Christ, toutes les nations vont être bénies. Il va être, l'Éternel promet qu'à travers lui, les nations vont être bénies. C'est Christ qui vient pour l'accomplir. Et on voit que même si Dieu promet une descendance à Abraham, etc., ça va prendre du temps avant que ça s'accomplisse. Si on revient à Genèse, ça va prendre du temps avant que ça s'accomplisse. Et puis dans Genèse 15, Genèse 17, Dieu va rappeler cette alliance-là qu'il a établie. Abraham, il a 75 ans lorsque Dieu va lui rappeler les promesses dans Genèse 15 qui lui ont été faites d'une postérité qui va naître de ses entrailles. Il n'y a pas de fils qui est né, 75 ans, il n'y a pas de fils qui est né. Le temps avance. Plus tard dans sa vie, il arrive à l'âge de 99 ans, Genèse 17. Abraham n'a toujours pas vu la promesse s'accomplir. Mais Dieu lui rappelle encore une fois qu'elle va venir. Dieu va accomplir sa parole. Même si ça commence à sembler même impossible, humainement parlant, Dieu va accomplir sa parole envers lui. Et puis Dieu va accomplir sa promesse dans Genèse 21 lorsque le fils de la promesse, même si Abraham a eu un fils avant avec Agar, la servante de son épouse, le fils de la promesse, c'est Isaac. Dans Genèse 21, 8, Genèse 21, les versets 1 à 8, Dieu accomplit sa promesse par la naissance d'Isaac. Puis Abraham va respecter les règles de l'alliance qui avait été établi par Dieu en faisant circoncire son fils le huitième jour. Dans Genèse 22, Dieu va mettre à l'épreuve Abraham. Dieu demande à Abraham de donner son fils en sacrifice. Puis Abraham va démontrer encore une fois son obéissance à l'alliance. Il est prêt à faire ce que Dieu demande. Et puis Dieu va renouveler ses promesses envers lui après ce récit-là, lorsque Dieu délivre. Et finalement, Isaac donne un bouc, Dieu pourvoit à un sacrifice, toute une image de Christ encore là. Dieu, c'est celui qui va pourvoir au sacrifice pour nous réconcilier avec lui. Mais Dieu accomplit ses promesses envers Abraham et puis il va renouveler ses promesses envers lui après ce récit-là. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Puis il renouvelle les promesses qu'il a faites. Évidemment, Isaac vient au monde. C'est l'enfant de la promesse. On arrive à Genèse 25. C'est à son tour maintenant d'avoir une descendance. Dieu va renouveler la promesse qu'il a faite à Abraham. Il va la donner aussi à Isaac. Et on voit dans Genèse 25 que Dieu va révéler à Rebecca qu'il y a deux nations dans son ventre. Et puis que le plus vieux va être soumis au plus jeune. Et Dieu va promettre qu'un seul, dans le fond, un seul de ces deux descendants-là va être celui qui va hériter de la promesse. Et ce qu'on voit, c'est que l'héritage que Dieu a donné n'est pas pour Ésaü, qui va devenir Édom par la suite dans le reste de l'Ancien Testament. On voit qu'Israël, à certains moments dans l'histoire, va combattre Édom. Édom, c'est la descendance d'Ésaü. Mais la promesse, c'est la descendance de Jacob. Et l'alliance qui a été faite avec Abraham est rappelé aussi à Isaac dans Genèse 26. Dieu rappelle exactement les mêmes choses. Il va avoir une postérité nombreuse, il va posséder le pays, puis toutes les nations vont être bénies à travers lui. Donc, ce que Dieu dit à Abraham, il l'accomplit, il donne à son fils Isaac. Et puis, on ne va pas aller dans le détail de la vie d'Isaac, les détails, mais on arrive maintenant avec Jacob, avec qui Dieu, qui est le descendant de la promesse. C'est Jacob qui est celui à qui les promesses sont faites. Genèse 28, l'alliance est renouvelée encore une fois à la descendance. Et là, ça va être comme Jacob qui va devenir comme la tête, le chef de cette, vraiment la descendance de Jacob. Son nom va être transformé en changé pour Israël. Et Israël devient la nation qui va servir Dieu. C'est avec lui que la descendance de la promesse, la descendance de la promesse d'une nation va s'accomplir. Et encore une fois, la promesse d'un pays, d'une bénédiction qui va venir à travers lui, tout ça est renouvelé. Et donc, de la descendance de Jacob est né, des enfants de Jacob vont former finalement les 12 tribus d'Israël. On a plusieurs enfants qui sont nés à Jacob, de 4 femmes différentes. Et puis, ils vont former les 12 tribus d'Israël. De ces 12 fils-là, il y en a 10. Les 10 enfants de Jacob qui forment une tribu, la tribu d'Israël. Et puis, de Joseph naît deux tribus, en fait. Et donc, on le voit là, on va le voir que tous les enfants de Jacob forment chacun une tribu, sauf Joseph, qui va former 2 tribus, les tribus de Manassé et Éphraïm. Ce sont les enfants de Joseph, finalement, qui vont créer cette tribu-là. Et puis, on arrive au point où je voulais m'attarder un petit peu plus, la vie de Joseph, parce que je pense que le récit de la Genèse nous amène vraiment à ce point culminant-là. Toutes les origines du peuple d'Israël, et maintenant, Israël va vivre... Et la famille de Jacob va vivre quelque chose de spécial, entre autres, à travers l'histoire de Joseph. Et puis, comme la promesse de la terre promise qui n'était pas encore accomplie, toutes ces choses-là, on les voit comme... Quand est-ce que ça va s'accomplir, ces choses-là? Et Dieu a pris Joseph, a choisi Joseph pour être une délivrance pour son peuple. Et Dieu va annoncer le plan à travers des songes, dans Genèse 37. Et puis Joseph, fils de Jacob, le chouchou de Jacob, celui qui est le préféré de son papa, Jacob fait une belle tunique de plusieurs couleurs. Jacob lui demande, « Va surveiller tes frères, va me faire un rapport sur ce que tes frères y font. » Et puis les frères, ils disent, c'est qui, lui? Pourquoi le père, il nous l'envoie pour commencer à faire du mémérage? Puis pourquoi il l'aime plus que nous autres? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le cœur des frères de Joseph? Ils commencent à l'haïr. Ça vient jusqu'au point de l'haïr. Mais à travers ça, Dieu, des fois, peut-être que si on se met dans la peau du jeune homme là, de 17 ans à ce moment-là, Joseph, il va se demander, mais pourquoi mes frères m'haïssent tant que ça? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Puis peut-être pas comprendre pourquoi tout ça arrive. Et puis finalement, la méchanceté gagne dans le cœur des frères de Joseph. Ils vont faire comme ils veulent le tuer, puis là, Ruben intervient. Non, 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 tuez-le pas, je veux pas avoir cette responsabilité-là sur moi. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le jeter dans une citerne, ils vont le vendre à une caravane d'Ismaélites qui va passer, qui va l'amener en Égypte, qui va être vendu en Égypte et qui va, dans un sens, amener Joseph en Égypte, entièrement loin, complètement loin, séparé de sa famille, dans une nation qui ne parle pas sa langue, rien. Là, je me souviens, j'enseignais ça aux jeunes l'année dernière, cette histoire-là. Quand tu te places dans la peau de Joseph, tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là, moi, de me faire vendre comme un esclave en Égypte? Je ne comprends rien de ce que le monde parle ici, de comment ils parlent. Tu te places dans cette situation, tu te dis, c'est toute une souffrance que le jeune, il vivait. Mais à travers ça, Dieu est en train d'accomplir son plan. Puis Joseph va le réaliser même plus tard. Et Joseph est éprouvé en Égypte. Dans Genèse 39, à un certain moment, la femme de Potiphar vient. Elle veut avoir une relation spéciale avec lui. Lui, il refuse. Et puis, s'enfuit. Et puis, finalement, se fait accuser faussement d'avoir voulu coucher avec la femme de son maître. Se fait mettre en prison pendant 2 ans. En plus, pas en plus d'être un esclave, je me fais mettre en prison. Mais à travers ça, Dieu est encore en train d'accomplir son plan. Puis, à un moment donné, le pharaon, le chef d'Égypte, va faire un rêve. Et puis, il y a quelqu'un qui était en prison un peu avant avec Joseph. Et Joseph avait interprété son songe. Et puis, Pharaon fait un songe, puis il dit, je pense qu'un de ses serviteurs dit, je pense que je connais quelqu'un qui peut te l'interpréter. Puis, il va chercher Joseph en prison. Joseph interprète le rêve. Qu'est-ce qui arrive? Le Pharaon reconnaît que l'Esprit de Dieu est sur Joseph parce qu'il a réussi à interpréter le songe. Et celui qui est en prison, dans le fond de la cave, il est élevé, puis il devient le premier ministre de l'Égypte. C'est quoi cette affaire-là? Le gars, il aurait pu jamais voir ça venir. Mais Dieu élève Joseph en Égypte. Il va se servir de Joseph pour délivrer sa famille lors d'une famine. Et puis, les enfants de Jacob vont habiter pendant 400 ans en Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude de Joseph dans toute cette histoire-là. Puis on avance rapidement dans Genèse 50. On va aller lire Genèse 50. Il y a Genèse 45 aussi qui nous montre des indices de ça. Mais dans Genèse 50, verset 15, je vais prendre le temps de le lire. Et puis, on va faire quelques liens avec ça. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. On voit la grâce que Dieu fait à la famille de Jacob à travers Joseph. Et aussi l'attitude de Joseph, de dire, « Vous m'avez fait du mal, c'est vrai, mais je réalise que tout ça est arrivé pour accomplir le plan de Dieu. » Et souvent, ça me fait réaliser que souvent au milieu de l'épreuve, on ne comprend pas. Et je pense que Joseph était à bien des moments dans sa vie, entre les 17 à 30 ans. Là, pendant 13 ans de temps, là, il était dans la souffrance. Puis, pourquoi ça m'arrive? Je suis certain qu'il s'est posé la question, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis en prison? Pourquoi je pourris en prison? J'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Je suis convaincu qu'il était à un endroit, à plusieurs moments, où il ne comprenait pas. Mais son cœur était à Dieu. Il voulait honorer Dieu. Et puis, à la fin, il dit, « Je ne comprenais pas. » Mais aujourd'hui, je réalise, ça faisait partie du plan de Dieu, ça. Puis ça faisait partie d'un plan que Dieu voulait bénir son peuple. Et là, j'arrive au point où je pense que le livre de la Genèse montre d'une façon glorieuse, comme une ombre de quelque chose qui s'en vient, de quelqu'un qui va venir, qui va souffrir, qui va venir sur la terre prendre une forme humaine, qui va être rejeté par ses frères, qui va être placé jusqu'à être emprisonné dans les liens de la mort, pour après ça être élevé, ressuscité et régner pour l'éternité. Joseph, c'est une image de Jésus. Et ce n'est pas juste moi qui invente cette histoire-là. C'est écrit dans les Écritures. On voit dans Genèse 49, verset 22, dans sa bénédiction que Jacob va dire sur ses enfants. Il va comparer Joseph à un rejeton qui, d'un arbre fertile. Juste l'image du rejeton, on va retenir ça. Il compare Joseph à un rejeton d'un arbre fertile. On ne le voyait pas, il était humilié. Puis à un moment donné, oups, il est sorti. Puis il était glorieux. Dans Ésaïe, chapitre 11, les versets 1 à 10. J'ai-tu le temps, là? Eh boy, le temps passe vite. On va y aller. Ésaïe 11, je veux terminer ça. Ésaïe 11, les versets 1 à 10. Juste vous montrer l'image du rejeton qui est manifestée dans une prophétie qui annonce la venue du Messie. Ésaïe, chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. » Et là, ça va un peu plus en détail. Et on va aller sauter au verset 10 qui dit « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera la bannière, une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Une bannière, c'est une bannière. C'est un écriteau pour montrer, qui annonce quelque chose. Il va être la bannière pour tous les peuples. Il va être celui qui va annoncer que tous les peuples peuvent venir à lui pour être réconcilié avec Dieu et restauré dans une relation parfaite avec lui. Un peu plus loin, le rejeton, ce rejeton-là, dans Ésaïe, va devenir le rejeton souffrant. Dans Ésaïe 53, verset 2, Ésaïe 53, on le sait, ça parle des souffrances que le Messie va devoir souffrir. Ésaïe 53, 2, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Verset 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Ce que Joseph a vécu, l'humiliation d'être dans la prison et d'être élevé, c'est une image de ce que Christ allait accomplir. Ce rejeton qu'on ne voit pas venir d'une terre desséchée, qui est humble, finalement va jusqu'à la mort, mais ressuscite et maintenant est élevé à la droite de Dieu. Et puis intercède en faveur des coupables. Dieu est bon. Dieu déjà commence à dire à la postérité d'Abraham, à son peuple, il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient. Puis il le démontre à travers ce récit-là. Et nous, lorsqu'on regarde dans le passé, on est dans le Nouveau Testament, nous, on est les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, on regarde, c'est « Wow, Dieu avait tout un plan parfait pour son peuple. » Puis pas seulement pour son peuple, mais pour les nations du monde entier. Et Dieu accomplit ses promesses. Ça, c'est une chose qu'on peut retenir de la vie d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Dieu a accompli ses promesses. Et on va voir dans le reste du récit de l'Ancien Testament, Dieu accomplit ses promesses. On peut se demander, « Coudonc, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? » Jésus nous a promis, dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, là, vous allez être avec moi aussi. » Là, des fois, on se demande, « Seigneur, ça va tellement mal, ça va-tu arriver ça un jour? » Mais il l'a promis. Et même si des fois on trouve ça long, on sait qu'un jour, ça va s'accomplir parce que Dieu accomplit sa parole et accomplit ses promesses. Une chose qu'on apprend, c'est qu'à travers toutes les épreuves qu'on peut vivre, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est souverain. Comme Joseph a réalisé toute l'épreuve qu'il a vécue, toute la souffrance qu'il a vécue, Dieu était derrière ça pour accomplir quelque chose d'encore mieux. Paul dit dans Romains 8 au verset 28, on le connaît, on connaît bien ce verset-là. Mais des fois, on a besoin de se l'approprier encore plus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Seigneur, je ne comprends pas la souffrance que tu permets dans ma vie. J'essaye de comprendre, j'y arrive pas. Mais je peux avoir confiance dans ta parole, dans tes promesses. Tu dis que ça sert à mon bien. Mais je veux me confier en toi à travers ça. Je ne sais pas comment ça va tourner en bien. Des fois, on ne voit pas, on est aveuglé par tout le mal qui nous arrive. Mais on peut crier à Dieu. Puis on peut dire, Seigneur, viens, aide-moi, puis glorifie-toi à travers moi, puis que ça puisse bénir les gens autour de moi, cette souffrance-là. Puis c'est ce que Paul va dire des fois notre souffrance va contribuer à la consolation des autres autour de nous. Pas seulement tourner à notre bien à nous, mais à ceux qui sont autour de nous. On ne peut pas toujours comprendre pourquoi Dieu permet les choses. Mais on peut être sûr que Dieu est là et Dieu accomplit son plan parfait. Et c'est ce qu'on voit dans la Genèse. Dieu accomplit son plan parfait à travers toutes sortes de circonstances, à travers le péché. Dieu veut sauver les hommes. Il a fait grâce et on veut lui rendre grâce en retour en priant. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour envers nous. Merci parce que ta parole nous révèle ton plan parfait. Merci de l'avoir accompli en Jésus-Christ, qui était de la descendance d'Abraham, qui était de la descendance même d'Adam, pour venir comme un nouvel Adam, pour venir prendre notre place. Être ce nouvel Adam qui allait vivre, qui allait être soumis à la tentation, qui allait, mais sans péché, sans jamais tomber, pour être un sacrifice parfait pour nous, pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de quitter ton ciel, de quitter la gloire que tu avais pour venir sur cette terre, prendre notre place sur la croix, recevoir sur toi la condamnation que nous méritions pour qu'on puisse être réconciliés avec le Père. Seigneur Dieu, merci d'avoir ressuscité ton Fils, merci de l'avoir élevé. Et Seigneur Jésus, on veut te fléchir les genoux devant toi parce que malgré l'humiliation que tu as vécue, maintenant tu es élevé dans la gloire et on veut te donner toute la gloire parce que par toi, notre médiateur suprême, on peut avoir une relation avec notre Créateur qui a été restauré. Seigneur, ton évangile paraît partout dans les Écritures, puis on veut te remercier pour ça, puis te remercier pour tout ce que tu fais pour nous de jour en jour. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, malgré les épreuves parfois que tu mets. Aide-nous à les voir, comme Jacques dit, comme un sujet de joie, même si ce n'est pas toujours facile. Aide-nous à nous confier en toi, à voir que ça contribue à notre bien. Et à travers elle, Seigneur, souvent on se rapproche de toi, puis on apprend à goûter ta grâce. Et Seigneur, viens continuer de faire ton œuvre en nous, qu'on puisse être reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Conduis cette célébration qui s'en vient, Seigneur, et qui est devant nous. On veut célébrer ton nom, célébrer ta gloire, célébrer ton évangile. Qu'on puisse avoir des cœurs remplis d'affection, d'amour pour toi, reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci, parce que tu es un grand Dieu. On veut t'honorer et te bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.